Alors, on a un intervenant qui a quelques minutes de retard. Donc, en attendant, comme on a un libraire qui est là au fond avec des livres chrétiens sur l'écologie, Dominique et Laura, on voulait en profiter pour vous parler d'un livre qu'elles avaient lu et apprécié. Et puis, comme ça, en attendant Frédéric Rognon, vous pourrez aller acheter un livre ou deux si le cœur vous en dit. Voilà. Et oui, et Hélène vous l'a dit il y a quelques minutes, pour tester vos connaissances, c'est pas ça que t'as dit, en attendant le début, il y a un petit quiz sur l'écologie, le christianisme, avec les réponses en bas sur vos tables, si vous avez envie de vous échauffer un peu les méninges. Alors, on y va pour les livres.
Alors, je vous propose de vous parler de cet ouvrage-là, qui est une traduction d'un livre de Celia Dean Drummond, qui est une théologienne britannique qui travaille au Laudato Si Research Institute, qui est à Oxford, qui est à Campion Hall, qui est donc le lieu jésuite britannique qui est dédié au travail sur les questions écologiques. Donc c'est un ouvrage qui, donc éco-théologie, qui se veut un manuel d'éco-théologie, donc qui reprend les grandes thématiques théologiques et qui les éclaire à la lumière de la question écologique. Voilà, on pourrait dire que c'est une traversée de la théologie chrétienne à partir du prisme du questionnement écologique et comment le questionnement écologique vient revisiter le traité sur la théologie de la création, le traité sur les fins dernières et l'eschatologie, sur la christologie, sur les pères de l'Église, etc. D'accord ? Donc c'est un manuel... on va dire qui est assez bien structuré parce qu'il vous donne un point sur l'état de la recherche aujourd'hui sur ces questions-là. Voilà. Et vous l'avez aussi en anglais, je pense, en libre service sur le. Donc là, il est traduit, c'est ça qui est bien. Mais si vous lisez en anglais, il est aussi accessible dans leur bibliothèque de recherche. Donc là, Laudato Si Research Institute, ils ont une bibliothèque avec des ressources en ligne, mais qui sont en anglais. Voilà. Donc, je passe la parole à Laura pour présenter le deuxième ouvrage.
Présentation plus courte, mais de plusieurs ouvrages. Laudato Si en acte, il n'est pas nouveau, mais il reste bien. Il est de Marie-Hélène Lafage de Lyon, qui a animé des ateliers pendant quelques années, un café-atelier lyonnais chrétien, catholique même, soyons précis. Et voilà, c'est vraiment un petit mode d'emploi avec plein de suggestions pratiques sympas. Loïc Lenné, il est heureux les sobres. Alors Loïc Lenné, du diocèse de Nantes, voilà, a animé pendant pas mal d'années un groupe qui s'appelle Parole de chrétiens au diocèse de Nantes, à la demande de l'évêque initialement, et puis après ils ont fait plein de choses de leur propre chef aussi, mais voilà. Très actif. Et si c'est le livre, parce qu'il a été réédité pas mal de fois, si c'est le livre auquel je pense, il revient sur...
Oui, je le connais très bien parce qu'il a fait sa thèse. Donc il a fait sa thèse avec moi donc sur ce sujet-là, sur la question de la sobriété comme nouveau principe de la doctrine sociale de l'Église, c'était un peu sa thèse, mais aussi comme vertu sociale. Et du coup, là, c'est un ouvrage qui reprend les béatitudes, hein, heureux les sobres, en faisant une proposition. Et si il y avait cette implication d'un nouveau, on pourrait dire, une nouvelle mise en œuvre de cette dynamique. Voilà, je vous invite à le lire parce qu'il a une très belle écriture, c'est assez simple comme écriture, et ça restitue les éléments de sa thèse de manière accessible pour tout le monde.
Voilà. Et le dernier, que je n'ai pas lu par contre, mais je connais l'auteur, du père Jostrom Kuritadan, qui était le responsable écologie au sein du dicastère au développement humain intégral. Donc le dicastère, on en reparlera tout à l'heure, qui au sein du Vatican a en charge l'écologie entre autres. et qui est particulièrement fort en éco-spiritualité. Voilà, il fait des célébrations Laudato Si, extraordinaires, mémorables. Donc, si son livre est aussi bien que ses célébrations, je vous le recommande.
Moi, je...
Alors, simplement un petit mot pour vous accueillir ici aux facultés Loyola Paris, pour vous dire que l'engagement sur le travail théologique en écologie, donc écothéologie, si on reprend la formule de Célia...
Recording in progress.
Donc, bienvenue à tous, à ceux qui sont ici en présentiel et à vous qui êtes en ligne. Donc, je suis Dominique Serra Quatanea, je suis ici dans le département d'éthique et de théologie morale et en charge avec Hélène Noisette d'un DIU, d'écologie intégrale, que nous avons créé cette année et plus largement d'un domaine éthique, sociale et environnementale sur l'engagement des facultés jésuites dans ces questions de, on pourrait dire, se réapproprier cette théologie de la création et en dialogue avec, évidemment, le travail œcuménique de nos amis protestants et orthodoxes, puisqu'on a aussi un séminaire de recherche en ce sens. Et donc, les différentes universités jésuites, mais particulièrement la nôtre, s'est engagée déjà depuis quelques années sur ces questions-là, que ce soit en philosophie comme en théologie. Le doyen de la fac de philosophie, Éric Charmetan, est avec nous. L'enjeu pour nous, c'est de travailler une des préférences apostoliques de la Compagnie de Jésus, qui est cet engagement pour la maison commune. Et donc, je suis extrêmement heureuse, au nom de l'ensemble des facultés Loyola, de vous accueillir, de ce travail en partenariat depuis de nombreuses années avec le mouvement Laudato Si, avec Église Verte, avec l'ensemble des acteurs. Et du coup, merci. Merci d'être présent et d'être actif aussi. Vous aurez un moment de prise de parole, de questions. Voilà, notre soirée, elle a cet objectif de se rencontrer, d'échanger, que ce soit vraiment très interactif. Et je vais laisser la parole à Juliette pour vous présenter les intervenants de la table ronde. Merci à tous.
Merci Dominique. Bienvenue à toutes les personnes dans la salle et à celles qui nous regardent en ligne. Bienvenue à cette soirée anniversaire des 10 ans de l'encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune. Donc je suis Juliette Maupa, je travaille pour l'association Église Verte, dont nous avons aussi ici le secrétaire général Alexis Guéry et là-bas notre présidente déléguée Jacqueline de Bourgoin. Donc n'hésitez pas à venir nous parler après. Donc pourquoi une soirée dédiée à un texte? Parce que c'est quand même un texte qui a été une sorte d'étincelle qui est venue embraser du bois qui était déjà là et qui a produit un feu magnifique, créatif, partout dans le monde. Et effectivement, la force de ce texte, c'est sa capacité à parler au plus grand nombre. Hein. Donc même les protestants se mettent à lire le pape qui reconnaît aussi l'importance du travail du patriarche œcuménique orthodoxe Dimitrios. Donc en fait, finalement, un texte plus œcuménique qu'il n'y paraît, et surtout qu'il est adressé à toutes les personnes de bonne volonté et pas que en interne. Et donc, en l'espace de 10 ans, que de changements dans l'Église, dont en France, modestement, mais aussi grandement, la création du label Église Verte. Alors, évidemment qu'on a envie d'aller plus vite, que face à l'urgence, il y a besoin, mais si on regarde les 10 années passées, il s'en est quand même passé énormément de choses. Dans les églises, les paroisses, les congrégations, les lieux d'enseignement comme ici, les lieux de recherche dans les associations, les mouvements, etc. Et donc, en particulier, nos 3 églises chrétiennes en France qui se dotent en 2017 d'un outil pratique pour que chaque paroisse, chaque communauté locale puisse progresser sur les sujets écologiques. On est vraiment très fiers d'avoir pu accompagner 1000 communautés, d'en avoir encore presque 800 actives aujourd'hui, donc des communautés qui progressent grâce à un éco-diagnostic sur leur pratique écologique, des actions créatives et différentes mises en place partout en France. C'est aussi pour ça que, et on sait que beaucoup de démarches se sont lancées suite à la lecture de l'encyclique comme une volonté d'aller plus loin, de mettre en œuvre ce que les intuitions, les demandes du pape François. Donc c'est aussi pour ça qu'on a souhaité organiser cette soirée. Dix ans après cette encyclique, alors que le pape est mort il y a quelques mois, il n'y a plus besoin d'étincelles, mais d'attiser la flamme, de la faire vivre. Et ça passe par beaucoup de créativité, la vôtre aussi, qui imaginait des choses partout en France. Et aussi par faire ensemble les chrétiens qui s'enrichissent les uns des autres des apports de leurs traditions respectives. Et donc c'est de ça dont vont parler nos trois intervenants aujourd'hui, des apports de leurs traditions, de ce qui a changé, de ce qui reste à faire. Donc on aura un regard orthodoxe, puis protestant, puis catholique, et vous pourrez poser vos questions. Donc la première à prendre la parole, et je l'en remercie, c'est Julia Netvidovic. Elle est professeure de patrologie et d'histoire de l'Église à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Donc on va lancer son diaporama et Julia pourra prendre la parole. J'espère que tout va marcher techniquement parlant. Formidable. Et ça marche aussi en Zoom ? Ah, on voit pas le diaporama en Zoom. Hélène, est-ce que tu sais comment faire ?
S'il y a le Zoom ici, on peut faire partager l'écran.
Bon, on commence sans diaporama pour ceux qui sont sur Zoom et on voit comment régler ? Discrètement. Ok. Bah, peut-être qu'on fait pas ça pour le premier diaporama, sinon on va perdre un peu trop de temps, mais on a le temps de le faire pour le deuxième. Ok. Bon, la parole est à Julia et on va s'occuper des problèmes de diaporama pour ceux qui sont à distance. Merci beaucoup, Julia.
Merci beaucoup, Juliette. Merci et bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais tenter ce soir en 15 minutes qui nous sont réparties de vous dire en quelques mots, donc, quelle est la conversion écologique que je considère comme étant un chemin de communion. Pas simplement dans la tradition orthodoxe, on va voir qu'avec Laudato si, c'est un chemin de communion de tous les chrétiens. En fait, qu'on se retrouve pour la première fois ensemble à ne pas avoir à se disputer, comme on le disait tout à l'heure, sur les détails de filioque ou autres grandes questions théologiques. Alors, je suis vraiment reconnaissante d'avoir cette occasion ce soir de prendre part à la soirée qui elle-même elle est placée sous le signe de l'écoute, de partage et donc de la conversion que je comprends vraiment en sens spirituel de terme. Et même dans ce sens-là, je viens de rentrer de Rome où on avait un grand colloque sur Nicée entre catholiques et orthodoxes. Et je me suis retournée à lire un petit peu le texte de rapport final sur le synode, sur la synodalité, et je me disais voilà un événement qui va se vivre où sur le terrain on cherche à incarner ce cheminement ensemble. Donc relire ensemble les 10 années écoulées depuis la publication de l'encyclique Laudato Si est une manière finalement de célébrer plutôt les fruits d'un chemin écuménique dans lequel nos églises se retrouvent autour d'un enjeu qui demeure fondamental, qui est celui de la relation que nous avons vis-à-vis de la création. Pour ce qui est de l'Église orthodoxe, Laudato Si n'a pas été vraiment un point de départ, mais plutôt une convergence. Cette encyclique, elle a renforcé une dynamique qui était déjà en œuvre, et elle a offert une langue commune. En ce sens, c'est un point extrêmement important, et elle représente, même pour les églises orthodoxes, une forme de plateforme de dialogue entre des chrétiens, en mettant des mots sur ce que nous partageons et ce sur quoi nous nous retrouvons ensemble. Donc plus largement, aussi, comme le disait Pape François, entre toute personne de bonne volonté, peu importe son appartenance confessionnelle ou ecclésiale. Alors, mon intervention, pour être plus brève, va être structurée en trois points. D'abord, je vais vous présenter très brièvement des ressources de la tradition orthodoxe pour penser la conversion écologique. Puis, l'influence que l'encyclique Laudato Si a jouée pour la dynamique orthodoxe. Et puis, en troisième élément, le plus long, je dirais, le chemin qu'il poursuit en proposant quelques perspectives dans l'univers de l'Église orthodoxe en France.
On va juste enregistrer le diaporama de Julia pour permettre à ceux qui sont sur Zoom de le voir aussi. Et ça ne devrait pas prendre trop de temps.
Des questions techniques.
Ah, on dirait que c'est presque fini.
Voilà. Donc, quelles sont des ressources de la tradition orthodoxe pour penser la conversion écologique. Donc, l'Église orthodoxe s'est engagée depuis plusieurs décennies dans une réflexion théologique, spirituelle et pastorale sur la crise écologique. Cet engagement s'appuie sur des ressources plutôt anciennes, profondément enracinées dans la tradition. Donc, comme on va le voir brièvement, la théologie cosmique, avec sa vision sacrée de la création comme don de Dieu, puis l'anthropologie ascétique, où l'homme est considéré comme étant un être de relation avec Dieu et le cosmos, comme un petit microcosme, et puis la voie prophétique qui a été portée par l'engagement du patriarcat de Constantinople. Donc, en ce qui concerne la théologie cosmique et liturgique, ce que je peux dire, c'est que dans la perspective orthodoxe, l'univers créé ne saurait être considéré comme un simple décor ou une propriété de l'homme. Il représente en tant que création un don de Dieu, une réalité habitée par sa présence. On va avoir même certains théologiens, pères de l'Église, qui vont parler de panenthéisme sans pour autant entrer dans panthéisme. Comme d'ailleurs l'affirme saint Maxime le Confesseur, un saint de 7e siècle, un saint byzantin, mais reconnu pour l'ensemble de notre Église unie, donc la création est comme une forme d'écriture symbolique qui révèle le Verbe. En fait, il a développé toute une théologie des logis qui dynamise toute la création. Donc l'être humain ne détient pas le pouvoir sur la nature, mais il endosse plutôt le rôle de prêtre de la création. Sa vocation est de recevoir le monde comme un don, de le transformer dans l'action de grâce et de l'offrir à Dieu. Cela s'inscrit dans la vocation eucharistique, soulignant l'importance de l'engagement personnel et d'ailleurs de la participation active de tout le peuple de Dieu, donc avec tous les charismes dont il dispose, dans la célébration eucharistique, donc dans la compréhension du monde comme une grande église qui ne se limite pas simplement à l'espace eucharistique de la liturgie qui dure un peu plus longtemps dans les églises orthodoxes, mais s'inscrit et se poursuit dans chaque geste posé avant et après la liturgie. Ainsi, l'univers tout entier est convié à entamer une louange, comme l'indique le verset de Psaume, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Donc, en ce qui concerne le deuxième point de l'anthropologie ascétique et eucharistique, je m'excuse, je dois aller très vite, cela ne fait que des grands rappels. L'homme, dans la vision orthodoxe, est un être de relation avec Dieu, avec les autres et avec le cosmos tout entier. L'ascèse, qui ne doit pas être comprise comme une attitude simplement négative ou désincarnée, au contraire, est plutôt un exercice de liberté face à la convoitise, mais aussi face au gaspillage et à l'exploitation. Jeûner, donc vivre sobrement, limiter sa consommation, ce sont autant d'actes spirituels qui expriment le respect de la création et la solidarité avec les pauvres. La liturgie orthodoxe, par tout son rythme, sa beauté, sa symbolique cosmique, est appelée, en quelque sorte, à éduquer le cœur, à éduquer nos sens, à percevoir le monde comme étant sacré. Donc si vous allez, par exemple, à des liturgies, là on vient de célébrer Pentecôte, les églises sont décorées avec de l'herbe, on fait même des petites couronnes qu'on emporte à la maison, et toute en fait la matière aussi est bénie. On ne parle même pas du pain et du vin, mais on apporte des fruits et on lit des prières pour les bénir et pour avoir vraiment un rapport de sainteté vis-à-vis de cette création qui nous entoure et qui nous est offerte. Alors, mon deuxième point, enfin troisième point dans ce volet, c'est la voix prophétique qui a été portée par le patriarcat de Constantinople. Donc sur la photo, vous voyez le patriarche écuménique Démétrios, qui a été déjà mentionné, Démétrios Ier, qui dès 1989 avait instauré le 1er septembre comme étant la journée de prière pour la sauvegarde de la création. Donc cette initiative a été reprise depuis par d'autres églises et constitue aujourd'hui le point de départ du temps de la création, donc qui va du 1er septembre au 4 octobre. Son successeur, le patriarche Bartholomée Ier, qui d'ailleurs est surnommé le patriarche père, a poursuivi cet engagement avec beaucoup de vigueur, avec de nombreuses publications, des déclarations communes, avec des scientifiques, des responsables d'autres confessions, avec l'organisation de nombreux symposiums sur les fleuves, la mer, le changement climatique, etc. Donc ce sont des grands colloques qui étaient organisés à Halki, au séminaire, donc à côté de l'Istanbul, et qui continuent à se réunir et à réfléchir notamment sur l'importance des eaux. En tout cas, il n'a cessé de rappeler que la crise écologique est d'abord et avant tout une crise spirituelle. Elle dénote l'état spirituel de l'humanité. Alors, quelle influence de Laudato Si sur la dynamique orthodoxe ? Donc, je pourrais dire que même si l'Église orthodoxe avait engagé cette réflexion bien avant 2015, Laudato Si a constitué un moment de reconnaissance, d'impulsion et de communion. Cette encyclique a permis une reconnaissance publique du rôle pionnier du patriarche de Constantinople, notamment par les citations explicites du patriarche Bartholomée dans l'encyclique, et ce geste du pape François a été perçu comme une main tendue, comme un appel à la collaboration, non seulement de la part du patriarche de Constantinople, mais par ce biais-là aussi de tous les églises orthodoxes locales, je dirais. Elle a également favorisé un sursaut dans certaines églises orthodoxes locales qui jusque-là peinaient à traduire la vision cosmique de la tradition dans des actions concrètes. Et en ce sens-là, cela nous aide énormément. En Grèce, en Roumanie et en France notamment, là je vais me concentrer davantage à ce contexte qu'on appelle de l'orthodoxie en diaspora, on va voir émerger des initiatives locales. Et je parlerai de séminaires, des engagements paroissiaux pour réduire l'empreinte écologique, des projets de jardins partagés ou de sobriété énergétique. Donc pour illustrer mon propos, je vais évoquer quelques initiatives plutôt récentes ou qui sont en cours. Et elles étaient portées notamment par l'Institut Saint-Serge où j'enseigne, donc je connais mieux. L'Institut donc qui organise des activités académiques sur la responsabilité chrétienne face à la crise écologique et puis le fait régulièrement avec les partenariats écuméniques, donc en collaboration avec d'autres institutions théologiques pour aborder des enjeux écologiques. Et on voit l'importance que cela se fait vraiment dans un espace écuménique puisque chaque confession apporte ses dons et qui permettent l'autre communauté à grandir dans la réflexion et dans l'activité concrète. Alors, Le premier événement auquel j'aimerais me référer, c'était le colloque qui a été organisé en février 2021, donc je ne vais pas aller plus tard, par les facultés de théologie de la région parisienne, et d'ailleurs en partenariat avec le réseau des églises vertes, responsabilité chrétienne dans la crise écologique, quelle solidarité nouvelle, et là vous voyez la publication de cet ouvrage. C'est un colloque, je dois dire, quand on organise des événements écuméniques, avec des sujets proprement de dialogue écuménique, cela n'attire pas beaucoup de monde. Mais ce colloque a attiré plus de 700 participants. C'était vraiment invraisemblable. Il a eu une très belle forme de mise en place. C'était un événement organisé en forme d'hybride sur place à l'Institut catholique de Paris, mais également en distanciel par la création des groupes régionaux qui eux-mêmes participaient activement à cet événement. Et l'idée, c'était que les groupes régionaux formés ne cessent pas leurs travaux et leurs réflexions une fois le colloque terminé, mais qu'ils restent et continuent à travailler ensemble pour porter des fruits de ces échanges-là. Donc ce colloque a été honoré par aussi une intervention exceptionnelle, là je parle en tant qu'orthodoxe, donc de la prise de parole donc de patriarche Bartholomée. Alors, en février 2023, je vais me dépêcher, il y a eu donc un autre partenariat avec cette maison, donc à l'époque Centre Sèvres, aujourd'hui donc Faculté Loyola, avec le cycle Croire et comprendre Laudato aussi, et puis la chaire de théologie écuménique et également l'Institut protestant de théologie de Paris. On avait organisé une soirée débat qui avait commencé à l'Institut Saint-Serge, la voix des églises à l'épreuve de la crise écologique, ressources, donc interrogations et perspectives, qui elle-même a été précédée par un office de vêpres orthodoxe pour la sauvegarde de la création. Et le lendemain, il y avait une journée d'études dans cette maison-là sur la sauvegarde de la création au cœur du dialogue écuménique. Cette rencontre avait pour but justement d'examiner comment le rapport à la création est engagé à travers nos liturgies, nos spiritualités, nos compréhensions de l'articulation entre justice et charité. Et c'est ces événements-là qui nous ont guidés à mettre en place un séminaire écuménique de recherche qui porte le même nom et qui est toujours actif et qui regroupe l'ensemble de facultés de théologie dans la région parisienne. Donc cette année, nous avons travaillé sur des questions relatives à l'anthropocentrisme, notamment. Donc on va continuer nos réflexions là l'année prochaine. Donc un séminaire ouvert à chercheurs de niveau master, de doctorat. J'aimerais bien rappeler que, enfin, vous faire connaître que depuis déjà 2 ans, à l'Institut Saint-Serge, nous organisons de manière aussi hybride, sur place, et puis en distanciel, les mercredis soirs, des offices de prière pour la paix et pour la sauvegarde de la création. C'est un temps de prière d'une trentaine de minutes à laquelle toute personne désireuse peut s'associer, soit venant directement à l'Institut, soit en participant en distanciel. Et puis, un autre événement qui avait eu lieu aussi en lien avec les églises vertes et puis le CSF, donc le 23 septembre dernier, il y avait une célébration écuménique dans l'église et le jardin de l'Institut Saint-Serge pour le temps donc de la création. On avait donc un temps de prière, de célébration écuménique, et puis vous voyez ici, on avait planté un olivier donc dans le jardin de l'Institut Saint-Serge, symbolisant notre engagement dans le cadre de ce temps de création. Alors, pour voir comment Laudato Si nous fait travailler de l'intérieur, on a pu constater qu'il constitue vraiment un espace commun, écuménique, que nous expérimentons aussi ce soir. Donc le réseau Église Verte, par son esprit de collaboration, permet aux orthodoxes de ne pas rester isolés, mais de participer à une dynamique chrétienne collective et structurante, même si on a un peu du mal à vraiment entrer dans les cadres. Et ça, on peut en discuter tout à l'heure. Donc pour illustrer ce point, nous pouvons nous tourner particulièrement vers des communautés monastiques qui ont peut-être un peu plus de possibilités, de cadres pour s'engager, enfin, ou accueillir des événements. Là, vous avez un numéro de la Croix, d'ailleurs le numéro d'hier, est revenu sur les monastères, donc les communautés monastiques, comme des exemples d'une écologie intégrale avant l'heure. Et là, je reprenais un petit peu l'exemple de Sœur Yosifia, qui vient du monastère de Solan, et qui dit d'ailleurs une chose que je retiens à la fin de cette interview, que j'ai pu entendre aussi dans d'autres communautés orthodoxes, comme Bois-Salaire, en Mayenne, ou Bussy-en-Othe. Ce sont des communautés qui s'engagent vraiment à une réflexion et une pratique de théologie intégrale. Elle disait, on parle d'urgence écologique, mais on développe des techniques de moins en moins connectées au réel. Et donc, selon elle, il faut un vrai changement de compréhension de la nature qui soit non pas un gisement de ressources à exploiter, mais quelque chose dont il faut prendre soin. Alors, pour peut-être clôturer les perspectives et le chemin qui se poursuit, je dirais qu'il reste vraiment beaucoup à faire, et notamment sur le plan pastoral. Ce que je retiens, c'est d'abord enraciner l'écologie dans la vie liturgique et paroissiale, essayer de vraiment multiplier les célébrations autour du 1er septembre, introduire des prières qui existent déjà, mais peut-être attirer plus de réflexions dans des catéchèses ou dans des temps de réflexion, dans des offices, encourager les fidèles à participer au temps de la création, à s'inscrire aussi au réseau Église Verte, former les consciences, donc offrir une formation sur l'écologie dans les séminaires, dans les catéchèses, puis aussi essayer de traduire des textes théologiques. Il en existe beaucoup, donc Monseigneur Jean Zizulas a beaucoup réfléchi, Jean-Christophe Guise, en français Jean-Claude Larchet ou Olivier Clément, je ne mentionnerai pas tous, mais pour essayer de rendre plus accessible cette théologie à un grand public, ce qui n'est pas toujours facile et cas. Donc, essayer aussi d'articuler la spiritualité et les gestes concrets du quotidien. Et puis, troisième point, c'est essayer de redécouvrir l'ascèse comme geste écologique. Le jeûne, qui ne concernerait pas seulement la nourriture, mais aussi l'usage du plastique, des ressources, des moyens de transport. Donc là, tout à l'heure, je voyais ma bouteille en plastique, je me disais, oui, effectivement, je viens me parler, puis qu'est-ce que je fais moi-même ? L'ascèse est un acte de résistance aussi face à l'écologie consumériste, et puis elle est aussi le chemin de solidarité avec les victimes de la crise écologique, notamment donc les plus pauvres. Alors pour conclure ces deux mots, pour l'Église orthodoxe, la conversion écologique n'est pas un supplément d'âme, je dirais, ni une réponse conjoncturelle à une crise. Elle devrait vraiment être une manifestation de la vocation spirituelle de l'être humain, appelé à coopérer avec Dieu pour que la création retrouve sa beauté originelle. Laudato aussi, en ce sens, a marqué un véritable tournant, non en changeant notre doctrine, mais en réveillant notre conscience. Il a offert aux chrétiens un langage commun, une impulsion fraternelle, une responsabilité partagée. Donc, j'espère vivement que ce chemin écuménique de conversion nous conduire ensemble à une liturgie cosmique, pour reprendre un titre de Lance Stromberg, où la Terre, l'homme et Dieu soient à nouveau réconciliés. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Yulia. Si vous avez des questions pour Yulia, gardez-les pour la fin des interventions. Et je passe tout de suite la parole à Frédéric Rognon, qui est professeur de philosophie à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg, pour notre deuxième regard, 10 ans après l'encyclique Laudato Si, cette fois-ci, un regard protestant, vous l'aurez compris.
Merci beaucoup, merci aux organisatrices, organisateurs de cette rencontre, et merci pour votre invitation. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'être présente et présent. Très heureux d'être là pour évoquer cet anniversaire. Je dirais d'emblée que Laudato Si est certainement le texte, l'encyclique, je dirais d'une façon plus générale le texte du magistère catholique, qui a eu la meilleure réception en protestantisme, et c'est pas anodin de le souligner, une bienveillance vis-à-vis de ce document, donc bien au-delà de l'Église catholique, et on le sait aussi bien au-delà même des familles chrétiennes, et certainement, on peut dire aussi que le pape François était un pape aimé des protestants, globalement, Alors pourquoi est-ce que Laudato Si a reçu un tel accueil dans le protestantisme? Certainement pour plusieurs raisons, mais il y a une raison qui me semble essentielle, c'est que face au défi de la sauvegarde de la création, eh bien, il n'y a pas de raison de mettre en avant nos divergences doctrinales. On a besoin de tous pour se retrousser les manches et avancer ensemble. Et donc, c'est une occasion de reconnaissance entre familles chrétiennes et de communion et de synergie et de collaboration. Il y a une autre raison aussi qui me semble expliquer cet accueil particulièrement bienveillant de la part des protestants. C'est l'articulation très étroite que fait le pape François dans Laudato Si entre écologie et justice sociale notamment. Un point sur lequel les protestants, plus ou moins selon les courants théologiques, mais je pense en particulier au christianisme social, qui est un courant important du protestantisme, un point sur lequel les protestants sont très attachés. Pour le dire familièrement, on a souvent employé cette expression familière, il n'y a pas de contradiction entre la fin du mois et la fin du monde. Il s'agit de tenir ensemble le souci de la justice sociale, le souci des plus petits, le souci des plus pauvres, et le souci des conditions de vie pour les générations futures sur notre planète. Donc ça, à mon avis, ce sont des éléments qui explique en grande partie la bienveillance des protestants. Alors soyons honnêtes aussi, et comme on est aussi en fraternité œcuménique, soyons dans la véracité. Je ne peux pas dire que tous les protestants ont accueilli de la même façon cette encyclique, et qu'il y a encore dans le protestantisme, dans un certain nombre de courants du protestantisme et chez un certain nombre de personnes, une frilosité vis-à-vis de tout ce qui vient du magistère catholique. Il est évident, soit une frilosité, soit un scepticisme, soit une indifférence. Donc je ne voudrais pas dire que le protestantisme est unanime. D'ailleurs, le protestantisme n'est jamais unanime. Le protestantisme est le lieu de la diversité par excellence. Et donc, il y a encore des frilosités vis-à-vis de l'encyclique, vis-à-vis de tout ce qui vient du magistère catholique, mais aussi vis-à-vis de l'écologie. Je vais l'évoquer aussi. Dans le protestantisme, il y a également un certain nombre de freins à la prise en compte des questions environnementales. Alors, Julia a parlé d'un langage commun. Effectivement, Laudato aussi nous propose un langage dans lequel peuvent se retrouver tous les chrétiens. Et j'en veux pour preuve l'un des éco-théologiens protestants les plus connus dans le protestantisme français, Martin Kopp, qui a intitulé son livre « Vers une écologie intégrale ». Voilà, donc un protestant qui reprend l'expression même du pape François pour l'intituler et pour l'argumentaire, pour le développement même de son livre. En même temps, il y a aussi des différences de langage. Dans le protestantisme, on parlera d'ailleurs aussi avec les orthodoxes, puisque dans le Conseil œcuménique des Églises, nous sommes ensemble. L'Église catholique a un statut d'observatrice. On parlera de sauvegarde de la création. C'est un langage qui nous est commun au sein du Conseil œcuménique des Églises depuis un certain temps. Mais effectivement, nous pouvons tout à fait nous retrouver dans cette écologie intégrale, puisque l'écologie intégrale prend en compte toutes les dimensions de l'existence et pas seulement les questions proprement environnementales. Alors, je voudrais quand même évoquer un certain nombre de freins pour montrer pourquoi le protestantisme n'a pas été pionnier, je dirais, je vais parler du protestantisme français. Le protestantisme français n'a pas été pionnier dans la prise en compte des questions environnementales, n'a pas été prophétique, l'orthodoxie l'a sans doute été beaucoup plus, alors que, paradoxalement, le protestantisme français a été prophétique pour bien d'autres questions, pour les questions de promotion de la femme, pour les questions de l'accueil des persécutés dans le monde, pour des questions de laïcité, etc. Bon, le protestantisme français a été très précoce dans un certain nombre de domaines, mais là, avec la question de l'écologie, il ne l'a pas été du tout. Et je pense qu'il faut rapidement rappeler ce qui s'est passé entre l'écologie et le protestantisme pour comprendre les mutations actuelles, les conversions actuelles. En effet, nous venons de très loin, les protestants, et je plaiderai coupable quand on accuse parfois les protestants, le protestantisme, d'être à l'origine de la crise écologique. C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus, mais voilà, il y a du vrai. Et très certainement, on voit à travers l'histoire que le protestantisme, enfin que les premières dévastations de la planète, que le productivisme a pris son essor dans des régions majoritairement protestantes. Et en même temps, il y a eu, depuis le 19e siècle, y compris en France, bien sûr aux États-Unis aussi, mais y compris en France, des figures protestantes qui ont joué un rôle de lanceur d'alerte, qui ont été des gens qui ont tiré le signal d'alarme vis-à-vis des dérives du productivisme. Mais ces personnes-là ont été très peu entendues, en tout cas leurs cris, leurs appels n'ont pas été repris par les institutions ecclésiales. Je pense à Charles Gide, je pense à Albert Schweitzer, je pense à Wilfred Monod, je pense à Jacques Ellul, je pense à Gérard Siegwald. Voilà quelques. Bon, je suis pas en train de faire une litanie des saints protestants, mais voilà, j'en évoque cinq qui ont eu un rôle vraiment précurseur, mais qui n'ont pas été pris en compte par les institutions ecclésiales. Alors quels sont les freins? Qu'est-ce qui fait que c'est seulement très récemment que le protestantisme s'est intéressé à l'avenir de notre planète, au point que lorsque le Conseil œcuménique des Églises dans les années 80, 83, 89 avec la rencontre de Bâle, a lancé ce processus conciliaire justice, paix et sauvegarde de la création, le protestantisme français a été très frileux et même en retrait. Pour quelles raisons? Alors il y a toute une série de raisons, j'ai pas le temps de les expliquer ici, mais il y en a une en particulier qu'il faut entendre parce qu'elle est encore présente parmi les freins aujourd'hui des protestants vis-à-vis des questions d'écologie. C'est cette crainte qu'ont toujours des protestants, un grand nombre de protestants, cette crainte d'être à la remorque d'idéologies à la mode, de courants d'opinion. Et donc de vouloir toujours être différent, toujours éviter d'être. On est dans le monde sans être du monde, et on veut surtout pas être du monde. Et ça a été jusqu'à ce que en 1989, donc dans cette période charnière du rassemblement de Bâle, un certain nombre de responsables des églises protestantes de France, je ne vais pas les dénoncer, hein, je ne vais pas dénoncer mais pas donner de nom, je ne vais pas dénoncer mes camarades, mais sont allés jusqu'à dire qu'il ne fallait pas tenir compte de ce courant d'opinion qu'on appelait écologie parce que dans 10 ans on n'en parlera plus. Ça c'est une frilosité typiquement protestante vis-à-vis d'un certain nombre de thématiques et notamment celle-ci. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis 89? Et qu'est-ce qui a finalement rencontré la démarche de la Laudato si et de l'Église catholique? Il faut reconnaître, et l'Église d'ailleurs, l'Église protestante unie de France, dont je suis ministre, l'a reconnue officiellement, elle a fait acte de repentance pour 25 ans de silence vis-à-vis de l'écologie, de 89 à 2014. C'est quand même long, et surtout c'est une période où les dévastations ont été très très fortes sur la planète, et l'Église, les protestants français sont restés muets globalement, à part quelques, comme je disais tout à l'heure, quelques lanceurs d'alerte, des personnes individuelles, ou bien des mouvements à la marge. Pendant 25 ans, l'écologie n'a pas été du tout à l'agenda des synodes, ni de l'enseignement de la théologie, ni des publications. Voilà. Pendant 25 ans, on est resté en retrait. Et c'est seulement à partir de 2014, alors je nuance un peu, il y a eu quelques événements avant, 2006, la création du réseau Bible et Création, qui s'appelle maintenant Espérer pour le vivant. Donc 2006, il y a eu des pasteurs qui se sont retrouvés pour essayer de lancer un courant d'éco-théologie. Et puis, si je veux nuancer un peu, même si j'ai pas trop de temps, je vais quand même mettre un peu de nuance, il faut faire toujours une différence dans le protestantisme français entre l'Alsace-Moselle et ce qu'en Alsace-Moselle, on appelle la France de l'intérieur, c'est-à-dire les 97 départements, à part les trois départements d'Alsace-Moselle. Ce sont des églises différentes, comme vous le savez sans doute. Et en Alsace-Moselle, sans doute en raison de la proximité avec la culture germanique, il y a une sensibilité plus grande aux questions environnementales. Donc là, je vais surtout parler de l'Église réformée de France, qui s'appelle aujourd'hui l'Église protestante unie de France, et qui s'est réveillée d'une certaine manière seulement en 2014. Alors, vous voyez, 2014, c'est un an avant Laudato Si, et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il y a eu cette rencontre. 2014, il y a eu un premier grand colloque, qui s'est appelé Terre créée, Terre abîmée, Terre promise, et qui a lancé vraiment un mouvement au sein du protestantisme. Et ce mouvement a rencontré précisément Laudato Si. Et c'est donc Laudato Si, très bien. Laudato Si, comme vous le savez, est paru quelques mois avant la COP 21, ce qui fait que les protestants catholiques et orthodoxes se sont retrouvés dans des événements pour y compris dans des groupes de pression hein, pour que la COP 21 réussisse. Et donc c'est très tardif hein, 2014, et à partir de là c'est une floraison de mouvements, de prise de conscience. En 2017, la Fédération protestante de France crée une commission justice climatique. En 2019, les églises d'Alsace, l'Église protestante d'Alsace crée un chargé de mission pour l'animation autour des questions environnementales. Et j'en viens à 2021, qui est une année charnière pour le protestantisme français dans la prise en compte des questions environnementales. Et donc, vous voyez, 6 ans après Laudato Si, et certainement en lien avec Laudato Si. En 2021, a lieu un synode, un synode de l'Église protestante unie de France, à Sète, sur l'écologie. C'est la première fois qu'il y a un synode sur l'écologie. Alors, je ne vais pas raconter tout ce synode. Il y a eu des textes très importants qui ont été votés, et notamment, comme je le disais tout à l'heure, un acte de repentance pour les silences et les compromissions de l'Église pendant toutes ces années. Et c'est pas tous les jours qu'une Église fait repentance. Et il s'agit pas de faire repentance pour ce qu'ont fait nos ancêtres du XVIe siècle, mais pour ce que nous avons fait, nous, parce qu'en 2021, beaucoup de synodaux étaient concernés par leurs propres compromissions. Mais il y a quand même des décisions très concrètes qui ont été prises lors de ce synode de 2021 que je voudrais présenter maintenant. Et à mon avis, la plus exemplaire, la plus courageuse, la plus audacieuse, c'est que l'Église protestante unie de France a décidé de changer de banque, c'est-à-dire de retirer ses placements financiers des banques qui ne sont pas claires sur le plan environnemental. Et donc, choisir une banque qui a une transparence totale sur ce que l'on fait de son argent. Alors, l'Église protestante unie de France, c'est pas des milliards, hein, mais enfin, symboliquement, quand même, c'est important. Et je crois que c'est la seule Église qui a fait ça. L'UEPAL, donc les Églises protestantes d'Alsace, ne l'ont pas fait, et l'Église catholique, à ma connaissance, ne l'a pas encore fait. Ça serait vraiment un geste formidable si les Églises faisaient ça. Or, ça a un impact, hein, de mettre son argent uniquement dans des banques qui sont transparentes sur le plan environnemental. D'autres décisions qui ont été prises lors de ce synode, eh bien, c'est là aussi pour l'Église protestante unie de France de créer un chargé de mission pour la justice climatique qui est rémunéré à plein temps pour circuler entre toutes les paroisses. C'est pas rien comme décision parce que évidemment ça a un coût financier et donc c'est vraiment une décision courageuse qui a été prise. Alors il y a des décisions qui ont été prises d'encourager les paroisses à une recherche liturgique, à une cohérence dans les repas de paroisse, à une cohérence dans l'énergie et la manière dont on chauffe les temples et les presbytères, la manière dont on se déplace. Il y a un encouragement aux facultés de théologie à intégrer l'éco-théologie dans leur programme, de la formation des pasteurs mais aussi des laïcs. Et là, je peux dire que je participe en grande partie à cet enseignement, et dans cet enseignement, Laudato Si fait partie des textes que l'on lit. Donc on lit Laudato Si entre protestants, avec les étudiants des facultés de théologie protestantes, sachez-le. Et puis, dernier point, et je terminerai avec cela, ce synode de 2021 a encouragé très fortement les paroisses à adhérer au réseau Église Verte, qui, comme vous le savez, est un réseau qui offre un label à toutes les églises qui cochent un certain nombre de cases dans leur engagement concret au quotidien pour la création. Et donc il y a maintenant, j'ai pas les chiffres, peut-être Alexis Gurie pourra nous dire exactement le nombre de chiffres d'églises, mais il me semble qu'il y a un tiers des églises qui ont adhéré à l'Église verte, qui sont les églises protestantes, et plus d'une centaine qui sont de l'Église protestante unie de France. Donc voilà, il me semble que, pour terminer, je ne pourrais pas parler d'une influence décisive de Laudato Si sur les engagements protestants, mais plutôt d'une rencontre, parce que ça s'est passé à peu près au même moment, une rencontre, une synergie. Julia tout à l'heure parlait de convergence, moi je parlerai de synergie, c'est-à-dire effectivement, nous au même moment, nous avons pris conscience d'un certain nombre de défis et nous avons amorcé des conversions. Le titre exact de l'intitulé de la du synode de 2021, c'était écologie, quelle conversion, avec un S à quelle et à conversion. Donc il s'agit d'engager des conversions de mode de vie pour que notre mode de vie soit plus conforme à une certaine fidélité à l'évangile, à l'œuvre du Christ telle que nous la comprenons. Voilà, je crois que j'ai écoulé le temps. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup Frédéric. Et donc en effet, si on prend uniquement les paroisses qui sont dans Église Verte, on est à 70% de catholiques, 30% de protestants. Si on prend tout le réseau Église Verte, vu que en dehors des paroisses, il y a des monastères, des communautés apostoliques, des écoles, etc., on est plutôt sur 80% catholiques, 19% protestants et 1% orthodoxes ou œcuméniques. Mais en effet, l'Église protestante unie est particulièrement engagée dans la démarche Église Verte. On compte 90 paroisses actives en ce moment sur les 380 que compte l'Église protestante unie maintenant. Donc c'est vraiment une union d'églises où la démarche a beaucoup progressé. Et puis sur le désinvestissement des énergies fossiles chez les catholiques, je pense que Laura en dira évidemment quelques mots, parce que là la décision elle se prend diocèse par diocèse, congrégation par congrégation, et il y a quand même un beau mouvement. Merci beaucoup Frédéric, et la parole à notre dernière intervenante, Laura Morosini, donc qui est directrice Europe du mouvement Laudato Si, donc une ONG catholique internationale et qui a été cofondatrice, secrétaire générale du label Église Verte, et que on est contente d'avoir avec nous, qui était au synode de Sète dont parlait Frédéric. Enfin voilà, Laura est vraiment engagée sur ces sujets depuis très longtemps. Et c'est bon, tout va bien, technique Zoom aussi, parfait, à toi Laura.
Merci. Merci beaucoup d'avoir organisé cette soirée et puis d'être en votre compagnie. Je crois qu'on se connaissait pas encore et en la vôtre et en ceux qui sont celles et ceux qui sont à distance. 10 ans, c'est peu pour un encyclique, c'est vraiment très peu, et pourtant il s'est passé pas mal de choses. Alors je vais commencer par ce qui se passait un petit peu avant Laudato Si, parce que de temps en temps, je reçois des courriers du professeur Jean-Pierre Raffin, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui a été un des premiers parlementaires européens verts et qui est chrétien et qui est professeur d'écologie. Et de temps en temps, il dit « Mais vous parlez de Laudato Si comme si tout était né avec Laudato Si. Or, on faisait plein de choses avant. » Donc, je vais pas tout citer parce qu'il y en aurait trop, mais rendons justice à celles et ceux qui étaient actifs avant. Je voudrais juste citer l'énorme travail qu'a fait Pax Christi, en fait, pendant beaucoup d'années, travail de réflexion, travail de réunion, de travail toujours œcuménique, je crois. L'appel de Klingenthal aussi, qui avait même une dimension interreligieuse. Un livre est sorti il y a pas longtemps pour en faire mémoire. Ces campagnes aussi, donc un travail de réflexion, mais aussi un travail d'action, de terrain, de sensibilisation, on disait à l'époque. Ça, le vocabulaire a changé, on n'en est plus là. Mais ces belles campagnes, vivre autrement, peut-être en aviez-vous vu les affiches, Noël autrement, avec cette idée de sortir de la surconsommation pour se poser un peu des questions sur qu'est-ce que c'est Noël, comment on intègre des un mode de consommation qui ne soit pas que de la consommation et qu'on hiérarchise bien les choses sur qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui l'est moins à Noël avec 25 partenaires, enfin entre 10 et 25 qui se sont développés. Et voilà, c'est une très belle campagne. Et puis des groupes, je pense à l'association œcuménique pour le respect de la création, qui est le tout premier groupe que j'ai rencontré avec Bernard Charbonneau en 92, dans le lointain 92, dans le sud-ouest, l'atelier chrétien co-responsable de la création de CVX, donc la communauté vie chrétienne ignatien. Chrétien et Pic de Pétrole, une association lyonnaise, le réseau Goubio, plutôt franciscain. Voilà, tous ne sont pas encore, ne sont plus forcément si actifs, mais tout ça a existé quand même pendant un certain temps. Je pense aussi à quelques penseurs et passeurs, à Hélène et Jean Bastère, bien sûr, qui ont beaucoup aidé à avoir conscience de avoir une dimension cosmique, quoi, à rechercher dans les pères de l'Église et dans les théologiens des premiers siècles. Tu citais tout à l'heure, je sais plus, c'était Basile, Maxime le Confesseur, voilà, les ermites aussi, voilà, toute une, à la fois une spiritualité et une théologie qui était commune, qui a été commune pendant quelques siècles et qui a été un petit peu oubliée dans le monde catholique ces derniers siècles. Donc c'était un très beau travail. Bon, Jean-Marie Pelt, Monseigneur René Coste, qui était aussi président de Pax Christi, François Heuvé, que les gens de cette maison connaissent bien, Elena Lacida. Je pense aussi à une publication de quelques années du cahier de Saint-Lambert, initié par le père Dominique Lang, et son blog Église écologique, qui est vraiment une mine où chaque jour il y a des nouvelles infos depuis, je ne sais pas, 10 ou 15 ans. Voilà, le blog Église écologie. Église au pluriel. et sur le plan institutionnel, toujours un peu suite au travail de Pax Christi, au niveau de la conférence des évêques de France, la mise en place d'une antenne environnement et mode de vie. Voilà, c'était la dénomination de l'époque, présidée par Monseigneur Stinger, qui est évêque émérite maintenant, mais qui était évêque de Troyes et qui était un peu le monsieur écologie de la conférence des évêques, même si c'était, voilà, c'était pas complètement institué, mais c'était, voilà, c'était son rôle. Et une publication, il y en a eu plusieurs, mais une des dernières, la dernière peut-être avant Laudato aussi, qui s'appelait Enjeux écologiques pour l'avenir en 2012. Donc une publication conférence des évêques, mais avec un travail de 4 évêques, voilà, c'était pas non plus quelque chose de complètement plénier où tous les évêques étaient unanimes sur le sujet. Il faut admettre quand même qu'avant Laudato aussi, c'était quelques-uns. On y reviendra. Juste un petit focus sur 3 de ces des initiatives qui ont un peu marqué l'époque. Je pense en 2011, puis 2015, 500, puis 2000 personnes à Saint-Étienne pendant 3 jours pour les Assises chrétiennes de l'écologie. Qui montre quand même qu'il y avait une appétence déjà. La création de Chrétiens Unis pour la Terre, qui est œcuménique, qui s'est beaucoup inspirée. Il y a beaucoup de personnes proches de la théologie orthodoxe, avec des voilà, qui est née d'ailleurs d'une rencontre dans un centre spirituel orthodoxe du sud-ouest, et qui met en réseau beaucoup d'acteurs et publie chaque mois une lettre qui s'appelle Maison Commune. Et je voulais citer aussi les marches, le Jeûne pour le climat, qui est une de ces initiatives de 2014 qui a été vraiment très forte, qui s'est répandue sur des dizaines de lieux de culte et de groupes, et ce qui était œcuménique, le Jeûne pour le climat, et des marches pour le climat, notamment celle de 2014. Alors, dans ce continuum de développement quand même d'action, dans ce continuum, Laudato aussi, voilà, c'est pas une révolution, c'est dans la continuité, mais hop, on monte d'un cran d'un coup, quoi. en fait. Ça fait faire un bond. Donc, dès les années 70, on trouve des éléments du magistère. Hein, si on sort de la France, on m'a demandé de me tenir à la France, mais bon, quand même, je crois que j'ai le droit de parler du pape. dans des éléments du magistère, je pense au discours à la FAO de Paul VI dans les années 70, à la lettre pour la paix de Jean-Paul II en 90, à Caritas in Veritate de Benoît XVI. Voilà, des éléments d'écologie existaient, mais il fallait les chercher, en fait. En gros, si vous vous intéressiez au sujet, en cherchant, en fouillant, on trouvait des choses. Moi, je m'étais dit, je me souviens, en 2011, j'étais arrivée comme une fleur en disant, tiens, ça serait bien que... J'avais fait des études d'environnement, j'étais pratiquante, voilà, je me disais, ça serait bien quand même qu'on fasse le lien avec les deux sujets. Tiens, je vais réfléchir et je vais écrire un livre. Puis après, je fouille. Alors, en fait, il y a plein de livres déjà, et il y a plein de gens qui ont réfléchi au sujet, mais je le savais pas en tant que paroissienne lambda. Donc 2015, Laudato si, donc juin 2015. Et une poursuite de cette réflexion aussi dans Querida Amazonia en 2020 et Laudate Deum en 2023, on y reviendra. Donc c'était le synode sur l'Amazonie avec un document final qui avait ce nom. Alors je voudrais dire trois choses en fait. Le premier, c'est que le sujet de l'écologie devient légitime avec Laudato si. Donc avant Laudato si, on s'entendait répondre l'écologie est un luxe de riches, l'écologie n'a rien à voir avec la foi, le temps pour la création instauré pourtant en 97 puis encore plus en 2007 au niveau œcuménique, c'est pas dans la liturgie, donc je suis pas tenue d'accepter une célébration sur le sujet. Donc voilà, peu de réceptivité. Enfin, on était content quand quelqu'un s'intéressait au sujet. Après Laudato si, Laudato si reçoit un accueil fracassant, beaucoup lu, beaucoup discuté, best-seller en France, 150 000 exemplaires malgré le fait qu'il était en libre accès un peu partout. Edgar Morin qui dit l'encyclique Laudato si est peut-être l'acte 1 d'un appel pour une nouvelle civilisation. Rien que ça. Et des experts comme Wolfgang Sachs qui dit « Jamais une encyclique a une telle diffusion aussi vite ». Cet effet de Laudato si se conjugue, comme disait Frédéric, à l'arrivée de la COP21. C'était quelques mois avant. Donc ce qui naît en France, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui naît du travail œcuménique ensemble, de la préparation de la COP aussi, qui s'est beaucoup fait au niveau œcuménique, et de Laudato aussi. C'est un mélange, un cocktail fructueux. Je ne sais pas si on dit ça d'un cocktail. Enivrant. Donc juste une dernière chose sur Laudato aussi, l'effet immédiat, il y a eu aussi beaucoup de personnes qui ont dit que c'était un effet analogue à celui de Rerum Novarum, ce qui est pas peu dire. Je vais passer beaucoup plus vite sur la suite. Laudato aussi donc mélange des éléments qui existaient déjà dans le magistère, écriture, les saints, conférences épiscopales, cite beaucoup de conférences épiscopales de par le monde, cite le patriarche œcuménique, et puis des nouveautés, la terminologie d'écologie intégrale, le lien clameur de la terre, clameur des pauvres, ça c'était vraiment fondamental, le fait de faire le lien avec les deux, de plus opposer pauvreté et écologie, en insistant bien, la plus pauvre de toutes, de tous, parmi les plus pauvres, pas la plus pauvre, mais parmi les plus pauvres, il y a notre sœur Mère la Terre. Enfin, c'est au tout début de Laudato si. Donc on peut pas s'intéresser à la pauvreté, ce qui nous vient très naturel, sans s'intéresser à l'écologie aussi. C'est un peu révolutionnaire. Tout est lié, le paradigme technocratique et la spiritualité écologique aussi, qui est un peu nouvelle et qui a pu faire grincer des dents par-ci ou par-là, et un renforcement de la théologie de la création. Je voulais quand même vous donner un petit... Ce qui est très important pour nous au mouvement Laudato Si, c'est trois dimensions de transformation. La dimension du cœur, conversion écologique, la dimension des modes de vie, réduction de l'empreinte, la dimension de l'action publique, à ne pas oublier. On a un peu tendance à l'oublier, faire entendre nos voix. Voilà, se transformer soi-même, se transformer ensemble et transformer les lieux de pouvoir aussi, des pouvoirs politiques et économiques. Parce qu'on aura beau être déparfait et consommer très peu, être très sobre, etc. On ne maîtrise pas tout. Hein. On sait que dans un bilan carbone individuel, 30% à peu près, c'est le système. Donc on n'a aucune marge de manœuvre là-dessus. On a une marge de manœuvre sur les 70 autres, mais il faut aller plus loin. Et donc ces trois dimensions, elles s'interpénètrent. Elles vont de l'intérieur à l'extérieur. Et parfois, on commence à l'extérieur et on va à l'intérieur. Donc voilà, la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure, une conversion écologique. Donc ce mot qui peut penser sembler un peu étrange, je crois que pour le synode il y a eu des tiens on voit plus rien. Il y a eu des discussions, hein, quelle conversion, je crois que conversion écologique ça aurait pas fait l'unanimité. Donc cette conversion, c'est accepter notre transformation, on disait métanoïa, apprendre et rayonner. Je pense qu'aux animateurs Laudato aussi, formés pendant 3 mois chaque année. Et puis certains vont plus loin avec le diplôme ici. Je pense à Église Verte aussi, où se forment des ambassadeurs Église Verte et puis les responsables aussi de groupes Église Verte dans les paroisses. Donc le cercle 2, celui de la soutenabilité, l'humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser des changements de style de vie, de production et de consommation. Voilà, Église Verte et la plateforme d'action Laudato Si, qui est plus récente, mais qui recoupe pas exactement le même type de structure. On pourra en reparler si vous avez envie. Et la dimension plaidoyer, il faut que la décision publique soit incitée par la pression de la population. C'est pas rien de dire ça. Voilà, ça veut dire qu'on a des choses à dire et qu'on doit les dire. Pas seulement qu'on peut les dire si on se sent militant, mais qu'on doit les dire. Donc faire entendre nos voix, on pense à interpeller donc des grandes entreprises par exemple, à sortir des investissements fossiles. Donc là, tu parlais de changer de banque, c'est une des propositions qui est faite maintenant à ceux qui sont déjà qui ont déjà sorti leur épargne des fossiles. Donc au niveau mondial, il y a près de 400 structures qui sont sorties, dont 5 françaises, deux diocèses et une congrégation très récemment. Et puis des adresses au président de la République, et ça, le fait que le Conseil des Églises chrétiennes en France, la Conférence des évêques, les représentants de culte, chaque année écrivent ensemble au président de la République. Et là, si les infos sont bonnes, il y a même une demande de rendez-vous pour faire pression sur les questions climatiques. C'est pas rien. Ils le faisaient pas avant 2015. la dernière partie, donc une dimension d'écologie intégrale plus structurée dans un écosystème donc académique, de terrain, les structures de Vatican, j'en ai parlé tout à l'heure, des initiatives au niveau de la conférence des évêques, des mouvements d'église, des congrégations aussi qui sont de plus en plus mobilisées, des institutions internationales, le bassin du Congo, le Panamazonien et une alliance Laudato Si européenne. Et puis des rendez-vous, ce temps pour la création, par exemple. Donc voilà, là c'est juste une image, vous voyez les différences de couleurs entre l'Assemblée des évêques avant l'initiative, ils sont très verts, mais ils sont que entre eux, alors que l'autre, c'est à partir du moment où le président de la conférence épiscopale a eu l'initiative de dire, d'inviter chaque évêque à venir avec une ou deux personnes de son diocèse pour parler d'écologie, et ça pendant 3 ans, donc à 6 reprises, il y a eu ce dialogue avec la plupart du temps des laïcs, voilà, pendant 2 jours, à chaque fois que les évêques se réunissaient, il y avait un temps pour se former aussi, parce que pour parler de quelque chose, il faut aussi connaître, et c'était pas forcément dans leur formation initiale. Voilà, et un autre focus sur le temps pour la création qui se développe. Donc, de beaux fruits, quelques limites, hein, tout n'est pas parfait non plus. La moisson est abondante, mais oubliée, peu nombreux. Ça repose surtout sur des bénévoles et avec des moyens souvent faibles. Donc ça, c'est le résultat d'une grande enquête qui a été faite l'an dernier sur 300 organisations européennes. Même si Laudato Si a vraiment les a toutes influencées. Elles disent en tout cas que ça les a influencées. Un autre bémol, c'est que ça va pas assez vite, et c'est le pape lui-même qui le dit, 8 ans après Laudato Si, je le dis avec mes mots à moi, mais la récitation est là, je dois remettre l'ouvrage sur le métier et vous dire qu'on va pas assez vite, d'où l'exhortation apostolique Laudate Deum, qui se centre sur la crise écologique, et c'est peut-être un problème qu'on a eu en France, la crise climatique, que dans Laudato Si, peut-être que le climat a pas été, chacun a un peu vu ce qu'il avait envie d'y voir, et du coup le pape s'est senti obligé de refaire un texte spécifiquement sur le climat. Et je termine avec ça, qui est une étude qui a eu lieu il y a 1 an et demi en France sur la réception, le climat et les chrétiens, les questions climatiques et les chrétiens. Et parmi les différentes questions, il y avait le niveau de notoriété de Laudato Si. Et donc, par rapport aux Français, pas spécialement catholiques, n'importe qui, la personne de la rue, 26% des Français ont entendu parler de Laudato Si, et 44% des catholiques pratiquants, qui se disent pratiquants. Donc, voilà, il y a encore un peu de boulot. Et si on demande, ok, vous en avez entendu parler, mais est-ce que vous voyez de quoi il s'agit? Parmi les catholiques pratiquants, on est à 17% qui voient de quoi il s'agit. Donc je me dis que on a encore pas mal de travail à faire. C'est normal, ça fait que 10 ans, mais voilà. Parmi les choses qu'on peut faire, vous voyez là-haut une petite vignette de la lettre. Donc ce film sur Laudato Si, ça peut être quelque chose de très simple à diffuser dans les paroisses. On avait fait la première ici même il y a 2 ou 3 ans. Voilà, toujours un bel outil. Et puis j'ai une deuxième proposition qui va sortir bientôt. Vous voyez cette petite carte là, elle est en anglais mais elle y sera en français. On peut aussi déposer une prière pour la terre, qui est un des beaux apports de Laudato Si, cette prière qui est à la fin et qui, je trouve qu'elle résume Laudato Si, moi, cette prière. Aller la déposer dans une près d'une statue de Saint François ou autre dans sa paroisse, et voilà, ça porte de manière très condensée le message de Laudato Si. Merci.
Merci beaucoup Laura. Et donc c'est Dominique qui va faire la modération de vos questions, et c'est moi qui vais venir vous courir après pour vous donner le micro afin que nos amis en visio entendent aussi.
Alors merci à tous ceux qui sont avec nous par Zoom, merci à chacun et chacune d'entre vous, merci à tous les trois pour ces trois relectures des 10 ans de Laudato Si, chacune à partir des confessions chrétiennes, chacun de votre point de vue. Je retiens ce que vous avez essayé de dire autour des convergences, en fait. Un texte qui permet à un moment donné de se ressaisir ensemble de ce qui était déjà là, mais qui était beaucoup moins, on pourrait dire, médiatique, Les chrétiens n'avaient pas une visibilité médiatique aussi forte. Alors il y a eu une conjonction politique, hein, on l'a dit, la COP21, il s'est passé quelque chose en fait au niveau international sur cette conférence des partis qui était à Paris, vous vous souvenez. Et du coup, merci d'avoir nourri ces visions, on pourrait dire, complémentaires, chacun de sa position, sans cacher les freins et les difficultés. Voilà, que ce soit pour les catholiques, pour les protestants, pour les orthodoxes, au fond, on voit bien que la réception de cette question-là, au cœur même, on pourrait dire, de la vie chrétienne, n'est pas aussi simple que ça. Et peut-être que les 10 ans de Laudato si, et Laudate Deum, vous l'avez souligné, c'est pour le pape François dire... Il se passe quelque chose, et moi ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans la Laudate Deum, c'est quand il dit, de manière un peu provocante, mais en même temps avec une certaine désolation, « J'entends encore des chrétiens catholiques climato-sceptiques ». En fait, à un moment donné, c'est plus possible d'entendre des contre-vérités. Donc il y a une prise de position assez forte sur la capacité des chrétiens, de la confession catholique, mais des autres confessions chrétiennes, à être dans un dialogue avec les sciences et à porter ensemble, tu l'as dit, sur le débat public, les enjeux de cette prise de conscience et de ces transformations structurelles. Donc voilà, c'était une manière de vous donner du temps pour élaborer vos questions. Et c'est toujours la première question qui est la plus difficile. Donc voilà, la parole est à vous. Merci.
Merci, merci à chacun pour ces exposés très riches. J'ai juste une question par rapport à l'acte de repentance. J'étais vraiment très ému d'entendre cette dimension d'honnêteté. Et j'aimerais savoir comment ça s'est passé concrètement, à qui cet acte de repentance s'adressait. Bon, les médias, je ne suis pas sûr qu'ils en ont beaucoup parlé, je ne sais pas, mais ça serait vraiment dommage que ce que... Ben oui, j'aimerais savoir, ouais, c'est vraiment un acte pour moi qui m'a bouleversé d'entendre. J'aimerais en savoir plus, voilà. Comment ça s'est passé, à qui ça s'adressait initialement, est-ce qu'il y a eu après des retombées, enfin je ne sais pas, enfin voilà. Merci d'avance.
Oui, tu prends peut-être 3 questions et après, voilà.
Quelles que soient les confessions, est-ce que l'écologie est un thème des prédications le dimanche?
Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une 3e question pour prendre une première vague?
Oui, en fait, j'étais un petit peu étonnée d'apprendre que le protestantisme était un petit peu en retard, parce que comme j'avais entendu parler de théologiens allemands comme Holtmann, qui avait travaillé auparavant sur l'écologie, je pensais qu'on était un peu les derniers des catholiques de la liste.
On y va pour les réponses et on prendra plus de questions après.
Frédéric, peut-être, sur un certain nombre de questions à partir de l'acte de repentance de...
Oui. Merci. Merci pour cette question. Alors, je vais vous lire le texte, hein. Je vais pas lire les 6 pages du texte synodal, mais le paragraphe sur la repentance. Donc, l'Église protestante unie de France se repent pour ses manquements vis-à-vis du projet créateur de Dieu et vis-à-vis de la relation de service et de respect due à la création. Une relation trop souvent interprétée comme une domination sans limite. Elle reconnaît les complicités et les passivités des Églises, alors Église au pluriel, face à la dégradation des environnements naturels et sociaux sur la terre. Elle témoigne également du pardon de Dieu qui nous libère de la culpabilité. Donc il y a repentance, mais aussi libération à l'égard de la culpabilité, de la peur de l'avenir, de l'angoisse, de la fin d'un monde, et nous permet l'espérance. Elle reçoit un appel à la conversion personnelle, ecclésiale et sociétale au service de la création. Voilà, donc ça c'est le début d'un texte qui fait 6 pages, qui est d'abord envoyé aux églises locales. Les destinataires des textes synodaux sont d'abord les églises locales, donc ensuite les conseils presbytéraux le diffusent, c'est parfois lu lors des cultes. Et puis c'est aussi envoyé aux autorités politiques, hein, puisqu'il y a des paroles à la fin, il y a des interpellations au pouvoir public. Alors je ne sais pas qui les lit, mais en tout cas c'est aussi envoyé largement aux autres églises, bien sûr.
Peut-être pour répondre à votre question, oui, c'est presque naturel, je dirais. Ça peut dépendre effectivement des fêtes, mais pour la théophanie, il y a des très très belles prières qui sont lues pour la bénédiction de l'eau, pour la fête de la transfiguration, n'importe le raisin, comme je disais, pour la Pentecôte, tout est décoré avec beaucoup de fleurs, de l'herbe, et c'est toujours un moment pour rappeler effectivement le besoin, non pas simplement de observer et de se réjouir devant toute cette beauté, mais de vraiment en prendre soin, puisqu'il s'agit d'une véritable responsabilité de salut. En fait, c'est pas simplement on se sauve tout seul, mais on se sauve avec l'ensemble de la création qui nous est donnée. Donc, et pour la préserver et pour en prendre soin, je dirais. Et je constate aussi, en visitant un petit peu les paroisses, il y a de plus en plus, en fait, de moments, après les liturgies, des personnes se réunissent dans des salles pour des agapes. Donc, c'était des traditions autrefois très pratiquées, mais après un certain temps oubliées. Et puis, maintenant, elles reprennent jour. Et je vois avec quelle sensibilité des personnes vont venir dire « N'apportez pas des couverts en plastique. Essayez de privilégier vraiment des couverts en bois ou de ne même pas les utiliser. » Voilà, pourquoi ne pas utiliser les mains, tout simplement le doigt. Et il y a vraiment une sensibilité là-dessus. Et je ne parle même pas du fait qu'on va partager la nourriture ensemble, et il se trouve que ces temps d'agape soient aussi des moments où des personnes qui n'ont rien à voir avec l'Église orthodoxe voient des personnes faire la fête, et souvent ils disent « Ah, ben c'est le voisinage, est-ce qu'on peut s'associer ?» Et c'est aussi l'occasion d'échanger. Voilà, je trouve qu'il y a des moments très spontanés, peut-être on va pas forcément porter une réflexion, même si cela revient de plus en plus. Nous, on a même une formation à Saint-Serge, et ça me semble vraiment intéressant de le signaler, qui s'intitule « Fondamentaux de l'orthodoxie ». Donc, c'est 24 séances thématiques, et la question de l'écologie est abordée comme étant fondamentale pour connaître les fondamentaux de l'orthodoxie. Donc, et là, on fait parler donc le côté théologique, mais aussi les communautés monastiques qui parlent concrètement de ce que elles font, bien des paroisses aussi, dans leur conversion donc écologique. Mais il y a encore beaucoup à faire.
Oui. Peut-être juste sur les prédications. Moi, je trouve qu'il y en a de plus en plus, mais voilà, c'est au doigt mouillé. Je vois que le temps pour la création est une belle occasion pour ça. La semaine Laudato Si' aussi, donc quand il y a une mobilisation dans l'Église sur le sujet, ben, la prédication va aller avec. Donc c'est une bonne façon d'obtenir aussi une prédication si elle vient pas spontanément. Mais j'en entends de plus en plus. Parfois, je dois avouer que parfois, avec un petit assorti de petites excuses. Genre, oui, la création, mais l'écologie, c'est l'écologie intégrale. Ça n'a rien à voir avec l'écologie qui existe par ailleurs, dont vous pourriez entendre parler dans une association ou autre. Bon. Voilà, c'est des réserves qui dénotent encore un peu de malaise sur le sujet, mais ça progresse. Et une autre chose que je trouve intéressante et qu'on entend pendant les célébrations, c'est les prières universelles. Bon, moi j'ai toujours ce rêve qu'on rajoute une cinquième catégorie de prières universelles sur la création. Ça avait été proposé, mais bon, voilà, vous pouvez le faire si vous avez envie. Donc voilà, quelque chose qui vient aussi, la parole des laïcs dans une messe, et ben elle vient là et elle rappelle aussi que ce sujet existe.
Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que dans les paroisses ou dans les communautés ou dans les écolieux qui sont en transition écologique, il y a un souci de cohérence, peut-être un peu plus que dans des lieux qui sont moins engagés sur ces questions-là. Alors peut-être que Juliette, tu pourrais dire, mais du coup, on avait les chiffres pour la confession protestante. Du côté des catholiques, il y a combien de paroisses en tout et combien qui sont labellisées paroisses vertes ?
Alors, dans l'Église catholique en France, il y a 9718 paroisses en ce moment, si je dis pas... Ah, zut. 9718 paroisses, si ma mémoire ne me trompe pas, en France, dans l'Église catholique. Et nous, on en a environ 400-450, je sais pas, je me souviens plus exactement. Mais donc on va être sur un petit 5%. On a des diocèses, on n'a aucune paroisse, et d'autres où c'est très dynamique, par exemple les Yvelines au hasard, vu que je vois Anne-Sophie. Et effectivement, dans les paroisses Église verte, les paroissiens vont aller pousser les prêtres quand il y a la messe dédiée, lui donner un petit coup de coude pour l'homélie, voire lui proposer des idées. Et on n'a pas beaucoup de visibilité en dehors d'Église verte. On se doute bien que les animateurs Laudato aussi, ils font ce travail aussi, mais au-delà de ça, ouais, pas sûr que ce soit un sujet central en effet. Est-ce qu'on prend la question sur Moltmann, précurseur, les protestants, mais pas dans la masse, et on change. Oui,
je veux bien répondre donc à cette question sur le retard du protestantisme par rapport aux questions d'écologie. Effectivement, ça a été une surprise dans mes recherches de voir à quel point le protestantisme n'avait pas du tout été précurseur ni prophétique. On a entendu que l'orthodoxie l'a été probablement, hein, donc ni l'Église catholique ni les Églises protestantes ne l'ont été. Elles sont à la même enseigne. Et alors, Jürgen Moltmann est allemand, hein, donc en Allemagne c'est tout à fait différent. Jürgen Moltmann, qui nous a quittés l'an dernier, immense théologien de Tübingen, qui a amorcé déjà très tôt, hein, dans les années, fin des années 70, début des années 80, une éco-théologie très très bien construite. Et donc, on pouvait connaître Moltmann en France, puisqu'il a été traduit assez rapidement. En fait, il a été très très peu connu, alors qu'il est la sensibilité à l'écologie est beaucoup plus forte dans le protestantisme allemand que dans le protestantisme français. Et c'est un paradoxe, parce que, comme j'ai essayé de le dire rapidement, mais il y avait des conditions favorables dans le protestantisme français, avec tous ces lanceurs d'alerte depuis le 19e siècle. Mais il y a aussi une institution que j'ai pas évoquée, qui me semble être une condition favorable et donc une occasion manquée de la part du protestantisme. C'est l'institution du scoutisme, le scoutisme protestant, qui date donc de 1911, donc très très tôt. Et le scoutisme, c'est précisément une pédagogie de la découverte de la nature, de la découverte de la fragilité du milieu, une pédagogie aussi de l'entraide, de la responsabilité. Quand il y a un camp scout, que ce soit protestant, catholique ou autre, hein, vous le savez bien, quand il y a un camp qui se termine, il n'y a pas un déchet qui reste sur place. Et donc ça, c'est quand même beaucoup de protestants sont passés par le scoutisme unioniste. Or, les institutions n'ont pas vraiment pris en compte ce message du scoutisme. Donc ça, c'est vraiment très paradoxal, mais je suis obligé de reconnaître que les protestants n'ont pas du tout été précurseurs en la matière.
En termes d'institution, mais ils avaient leur prophète.
Voilà. En tant que personne et mouvement à la marge, oui.
Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, j'en ai quatre, donc 1, 2, 3, 4. Je viens vous voir et on prend les quatre en même temps.
À la suite. Oui, on va fêter, célébrer, je ne sais pas, les 1700 ans du Concile de Nicée, donc bien avant nos séparations successives. Moi, j'aurais bien, qu'est-ce que vous en pensez, proposer une profession de foi à cette occasion, qui serait de dire, commencer nos professions de foi en disant « Nous sommes des vivants parmi les vivants ».
Merci beaucoup. Excusez-moi que je commence par un petit malaise que je voudrais dissiper. La différence entre la vision écologique chez les profanes et l'écologie intégrale. Excusez-moi que je dise un mot là-dedans. La vision profane ou l'écologie profane regarde ce qui existe non pas du point de vue comme création, mais comme nature. Et là, on observe le rapport entre les êtres et leur environnement du point de vue de l'histoire. Ici, nous sommes dans l'évolutionnisme avec Darwin. Mais au niveau de l'écologie intégrale, on reçoit ce qui existe comme création, c'est-à-dire comme un produit d'amour de Dieu. Et puis, ici, on regarde les rapports entre les êtres du point de vue du dessein de Dieu, tel que Dieu a voulu que ces êtres cohabitent et coexistent. Voilà pourquoi tous les textes en rapport avec l'écologie intégrale sont enracinés sur le livre de la Genèse et les Saintes Écritures. Alors, ma question maintenant, c'est celle de savoir. Je sais que il y a une notion qui nous départage entre catholiques, protestants et orthodoxes. Et je voudrais, si vous pouvez nous aider à comprendre, la notion des créations comme activité des dieux est-elle continuelle ou est-elle achevée? Merci.
Alors, deux autres questions, gardez-les bien en tête, notez-les. Ici, c'était ça?
Merci. Oui, j'avais une question sur l'organisation des mouvements, en fait. Comment est-ce qu'ils vivent? Comment est-ce qu'ils sont financés? Et comment est-ce qu'ils sont rattachés ou non à Rome ou à l'organisation ecclésiale au-delà de la France? L'Audace aussi, le mouvement L'Audace aussi, et Église verte.
Et la dernière question.
Moi, j'avais juste une question sur la genèse de Laudato Si. Est-ce que c'est vraiment une conviction du pape François qu'il a écrit? Comment? Parce que c'est pas immédiat pour un homme de sa génération, de l'Argentine, d'avoir cette conviction-là. Est-ce que c'est ma première question, c'est comment il l'a acquise? Est-ce que c'est lui qui l'a portée? Est-ce que c'est des propositions de la curie? Comment la curie? Voilà. Comment on rédige une encyclique et quel est le processus, et puis je dirais les résistances éventuellement au sein de la curie, ou au contraire le soutien, ou un mélange de soutien et de résistance. Voilà, merci.
Alors je propose qu'on réponde aux questions et qu'on finisse après, et si des personnes ont encore des questions, ça tombe bien parce qu'il y aura un pot juste après, donc au fond, un peu vers la gauche, on pourra continuer à échanger entre nous et avec les intervenants. Donc il y avait 4 questions, on y répond et puis on s'arrête après.
Bon, je me lance. Bon, merci Père pour la précision sur l'écologie intégrale. C'est tout à fait juste. Je suis passée un peu vite, mais c'est voilà. Ce que je voulais juste dire, c'est que ça n'a pas rien à voir non plus, et qu'on peut faire des choses avec d'autres structures, même si la vision philosophique derrière n'est pas exactement la même. La création continuée alors je suis pas théologienne, donc je botte en touche, mais par contre il y a un excellent livre de Fabien Revol sur le sujet, sur la création continuée, hein, je sais pas, c'est ça exactement le livre, tu me rectifieras, mais peut-être que tu peux répondre à cette question. Sur le mouvement Laudato Si et Église verte, les financements, je crois, si Église verte me corrige pas, il y a la participation des structures et puis d'autres financements. Tu veux répondre? Voilà, je peux répondre pour le mouvement Laudato Si. Voilà, il y a de plus en plus de dons, et puis il y a des fondations de congrégations religieuses, autres. Il n'y a pas de financement du Vatican, contrairement à ce que d'autres pensent, et il n'y a pas de lien structurel avec le Vatican. Il y a une communication et un soutien mutuel sur tel ou tel sujet, mais il n'y a pas de... Voilà, c'est une ONG.
Je me permets d'intervenir dans le cadre d'Église verte. Pour dire qu'il y a un sujet sur le financement de nos organisations, où globalement, on n'est pas vu comme des structures qui ont besoin d'argent. L'écologie, c'est 3 stylos et 4 cahiers et du bénévolat. Et c'est un vrai sujet, je pense que tu as la même chose au niveau du mouvement Laudato Si, que d'avoir des financements, que d'avoir des financeurs importants qui acceptent de mettre de l'argent. Et aujourd'hui, c'est une vraie difficulté que nous avons dans un certain nombre de projets que l'on souhaite mettre en œuvre, parce que dans le cadre d'Église verte, par exemple, alors que nous sommes présidés par les présidents respectifs de la Conférence d'évêques de France, de la Fédération protestante de France et de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, nous n'avons pas de dotation. Nous devons trouver nous-mêmes nos financements, qui passent par les communautés, par la générosité du public et par un certain nombre de fondations. Et clairement, le modèle économique d'Église verte aujourd'hui n'est pas viable. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de grandes fondations qui nous financent, mais nous n'avons pas de visibilité qui nous permette à l'horizon 3-4 ans d'être autonome de ces grands financeurs. Et c'est un vrai sujet que nous avons aujourd'hui, et je parle en tant que protestant, j'ai vu un certain nombre de décisions, de synodes, etc., dans lesquelles il y a de mémoire entre 40 et 50% de l'argent des églises locales dans l'église protestante unie qui passe dans l'entretien des bâtiments, par exemple. Il y a un argent, un pognon de dingue, comme on dit, qui est dépensé là-dedans, et pour des projets alternatifs, pour des projets aussi pour construire l'église de demain, il est plus compliqué de mettre de l'argent. Donc il y a un vrai sujet qui vaudrait le coup de faire des conférences entières sur les modèles économiques de nos institutions et comment aussi, et je finirai par là, nous ne sommes pas dépendants d'un certain nombre de financeurs qui aujourd'hui peuvent avoir de l'influence. Clairement, aujourd'hui, une personne exilée fiscale en Belgique a une certaine influence sur un certain nombre d'organisations chrétiennes, et c'est un vrai sujet, parce que d'autres structures qui ne sont pas en faveur de l'écologie peuvent avoir, eux, des financements très conséquents, et donc il nous manque aussi là-dessus une perspective de moyen et de long terme pour assurer l'avenir pérenne, joyeux et heureux de nos organisations.
Merci beaucoup, parce que c'était aussi un sujet autour de la question précédente, hein, sur
peut-être la confession de foi. Vous avez raison, mais moi je la vois immédiatement quand on évoque le Père, bon, tout puissant. Aujourd'hui il faudrait un peu en discuter de ce terme là mais créateur du ciel et de la terre, finalement ça permet immédiatement de montrer que toute la création n'est pas en notre pouvoir, elle est vraiment en pouvoir de Dieu. Et on fait beaucoup de catéchèses, puisqu'elles sont structurées, en tout cas dans les églises orthodoxes, régulièrement autour de Notre Père et autour du credo de Nicée-Constantinople. Et souvent, quand on évoque cette partie du credo, on le développe également dans le cadre de toute la théologie, donc de la création notamment. Et puis ça me rappelle aussi, quand vous entrez dans les églises orthodoxes, vous les voyez décorées par les icônes. Donc beaucoup se passe aussi de ce côté imagé. Dans les icônes, vous voyez les représentations des animaux, des plantes. Enfin, ça révèle finalement que l'Église, et donc la création, n'est pas achevée. Et là, j'évoquerai un autre père de l'Église, Saint Grégoire de Nice, qui dit, tout est appelé dans l'optique eschatologique de se développer de gloire en gloire. Donc voilà, peut-être la seule chose véritable à faire, c'est de se convertir son regard, le cœur, pour pouvoir que la gloire est déjà là, présente, et qu'il faut essayer de l'éveiller. Moi, souvent, je pense à un auteur qui est décédé aussi récemment, Christian Bobin, que j'aime beaucoup, un véritable poète, qui, disait, j'ai pas besoin de quitter mon jardin parce qu'il y a tellement de miracles, dans celui-ci. Quand je les aurai explorés tous, peut-être je sortirai. Je trouve que, c'est un père de l'Église, comme j'avais occasion de lui dire, parce que je traduisais en serbe, contemporain.
Peut-être rebondir sur cette proposition d'une confession de foi à l'occasion du 1700e anniversaire de Nicée. Je ne sais pas si vous savez la manière dont vous l'avez proposé, de commencer par « nous sommes des vivants parmi d'autres vivants ». C'est une formule qu'avait proposée Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, dont on fête aussi l'anniversaire, le 150e anniversaire cette année, qui raconte donc comment, en arrivant dans un embouchure du fleuve Ogoué au Gabon, a vu un troupeau d'hippopotames, et lui est venue cette formule: nous sommes des vies qui veulent vivre au milieu d'autres vies qui veulent vivre. Oui, vous êtes vraiment tout à fait très proche de la formule d'Albert Schweitzer. Donc de son éthique du respect de la vie, du respect inconditionnel de la vie, qui pour lui découle de l'Évangile, découle de sa lecture des textes bibliques.
Alors, peut-être sur la genèse, comment Laudato Si a été inspiré au pape François. Alors, d'une façon, je n'étais pas dans les petits papiers du pape François, donc je ne sais pas exactement, mais le processus habituel, c'est que les textes, les encycliques, sont préparés par un certain nombre d'acteurs. Alors, le pape François avait l'habitude de s'entourer de théologiens qu'il connaissait, donc Laudato Si est très bien informé d'un point de vue scientifique. Donc, il y a vraiment un diagnostic sur la situation présente qui est très, très partageable hein, avec tous. Et donc, il est clair qu'il y a un certain nombre de porte-plumes hein, qui ont travaillé pour lui. Mais en même temps, il y a la patte spécifique de François qui raconte que cette question-là, il l'a croisée à travers son travail quand il était évêque de Buenos Aires dans les conférences du CELAM. Le CELAM, c'est la conférence épiscopale au niveau de l'Amérique latine qui permettent à tous les évêques de se rassembler, de travailler. Ils ont beaucoup travaillé sur la question notamment de l'Amazonie. Et donc c'est en discutant avec les autres hein, qui venaient d'ailleurs, en étant dans cette dynamique d'écouter ce qui se passait dans les différents lieux de l'Amérique latine. Et vous savez à quel point l'Amérique latine est aux prises avec la question des mines, de l'exploitation minière, à quel point la question sociale est une question extrêmement importante. Donc on pourrait dire cette tension entre l'injustice sociale et l'injustice climatique chez François a été d'une certaine manière au prisme de cette théologie du peuple dans lequel le peuple de Dieu essaie d'exprimer ce grand cri des humiliés de la terre et qui du coup, dans sa manière de penser le travail, on pourrait dire, de la miséricorde, comment ce Dieu, hein, à travers l'ensemble, on pourrait dire, de la louange cosmique, mais aussi de ce cri des humiliés, permet de saisir la grande dynamique chez lui de tout est lié, hein, c'est-à-dire cri de la terre et cri des pauvres. Il me semble qu'il l'a entendu, on pourrait dire compris, à partir des théologiens qui étaient là au travail dans ce CELAM, et à partir de l'écoute du terrain. Et du coup, quand il est devenu pape, d'une certaine manière, c'était déjà là, et il a choisi, à ce moment-là, de cristalliser, de synthétiser et de faire cette proposition. Et qui est devenue une vraie conviction. Enfin, je crois que le texte, à la fois de Kerry d'Amazonia, mais aussi de Laudate Deum, manifeste que chez lui, c'était devenu une conviction très profonde, que ça fait partie du credo, voilà, hein, d'être des protecteurs et des gardiens de l'œuvre de Dieu. On pourrait dire que déjà le nom qu'il a choisi, François, était déjà la manifestation qu'il avait, avant même la rédaction de Laudato Si, qu'il portait cet enjeu du croisement de crise écologique et crise sociale, de cette crise systémique. Donc je crois que c'était largement conceptualisé chez lui, et que ça a été l'occasion, vous le dites, des rencontres, du dialogue. C'est un pape de la rencontre et des dialogues, et du coup de l'ancrage d'une parole théologique à partir d'un terrain de rencontre. Vraiment, merci. Merci à tous les trois. On va devoir s'arrêter. Merci d'être venus. Et donc, je laisse Juliette nous inviter à la suite des agapes.
Oui. Donc, les facultés Loyola sont ouvertes jusqu'à 21h30. Donc, nous avons le temps pour acheter des livres auprès du libraire. Et puis, on a rapproché le pot de quelques dizaines de mètres pour être encore plus proche de la salle. Et pour information, on a publié une chronologie d'actions chrétiennes sur les sujets écologiques sur notre site. Vous pouvez aller dans les actualités et vous trouverez beaucoup de liens qui vous renvoient vers des textes, des décisions dont les divers intervenants ont parlé. Donc, à vos livres, à vos gobelets, à vos mains pour déguster des bonnes choses et discuter entre vous.